grand dialogue
sigika foba
edowani wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne biro
halud maundi
chenne biri sigika foba
le grand dialogue
le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 23 septembre 2014. Bienvenue au Grand Dialogue qui parle ce soir du bilan de la deuxième phase des pourparlers d'Alger. Voici les trois axes de cette émission. Le bilan des travaux d'Alger, divergence entre les délégations, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces différents points de vue? Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui pour qu'il y ait un accord après ces pourparlers à Alger? Pour débattre de cette question, nous aurons Alaï Touré du Conseil national de la société civile qui est en cours de route. Sunkalo Zoromé est dans ce studio du parti Yelema. Moussa Ag Acharatoumane, responsable de la communication du MNLA, qui est à Alger. Moussa Kamara, notre envoyé spécial depuis Alger. Je suis Famoussa Sidibé et Petit Ndiara est en ligne. Studio Tamani. La première phase des négociations d'Alger tire vers sa fin. Après les concertations, place maintenant aux restitutions. Les représentants de la médiation internationale et les représentants du gouvernement de Bamako reçoivent depuis ce week-end les conclusions des deux délégations du Nord. Alors Moussa Kamara, vous êtes en ligne depuis Alger. Vous êtes notre correspondant sur place. Qu'est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui de l'ambiance qui prévaut sur place ?
Merci Famoussa et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Studio Tamani. Pour ce qui est de l'ambiance, il faut tout simplement dire ici, tout comme à l'ouverture des travaux, aujourd'hui vous l'avez dit, on tend un peu vers la fin. Donc de cette première étape de la deuxième phase des pourparlers inclusifs intermaliens à Alger, l'ambiance est pour le moins bon enfant. On a constaté quand même du début jusqu'à maintenant que les uns et les autres baigne dans une ambiance plutôt bonne. Donc on sent une ambiance assez, disons, j'allais dire ambiance assez détendue, contrairement à ce que les gens peuvent bien passer. Les uns et les autres ont participé au débat, aux différentes négociations qui, il faut le dire, n'ont pas été aussi faciles que ça. Les uns et les autres ont débattu mordicus leur point de vue, mais pour autant, entre les différents groupes armés, entre le gouvernement malien, il y a toujours justement cette atmosphère vraiment malienne qui est là.
Alors Moussa, malgré les difficultés aujourd'hui, quel bilan peut-on tirer de cette deuxième phase?
Bon, il est très difficile alors de tirer le bilan alors que nous observons ce que moi j'appellerais la mi-temps, parce que ces quatre premières semaines constituent donc la première justement étape de cette deuxième phase des pourparlers inclusifs intermaliens. Donc, il faut un retour vers la mi-octobre pour, n'est-ce pas, jouer. Alors, la deuxième mi-temps, les quatre autres semaines qui vont rester. Mais pour l'instant, il est trop tôt de dégager un bilan. Mais ce qu'on pourrait dire, alors, si l'on se fie quelque peu, alors, à certaines indiscrétions, alors, qui sont venues de la salle des débats et de la médiation, c'est que les travaux ont été appréciés. L'atmosphère dans laquelle s'est déroulée, alors, se sont déroulées, j'allais dire, ces négociations, c'est bien apprécié par la médiation. Les uns et les autres ont fait des propositions, disons, pertinentes avec des documents à l'appui.
Alors, Moussa, vous restez avec nous. Nous avons également en ligne depuis Alger, Moussa Ag Acharatoumane. Voilà, il n'est toujours pas en ligne. Malheureusement, c'est les aléas du direct. Nous avons Sunkalo Zoromé du parti Yelema qui est dans ce studio. Alors, Sunkalo, l'ambiance qui prévaut à Alger est plutôt bonne. Aujourd'hui, quel bilan peut-on tirer de ces pourparlers à Alger à partir de Bamako?
Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices. Et comme M. Kamara vient de souligner tout de suite, il est très difficile de tirer un bilan, mais comme quand même à Bamako, il sera très souhaitable que si les comptes rendus seront, c'est-à-dire restitués ici, à partir de cet instant, je pense qu'on peut tirer vraiment un bilan. Mm-hmm. Bon, je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble me paraît un peu flou pour dire que vraiment on peut tirer une conclusion vraiment ou encore faire un bilan. Mm-hmm.
Alors, qu'est-ce que vous avez compris des différentes difficultés, des tractations qu'il y a eu durant ces trois semaines à Alger?
Bon, il faut reconnaître qu'il y a eu des moments là où on a arrêté, certains ont boudé les bureaux, les salles, certains ont accepté le dialogue avec leurs concitoyens. Et maintenant, ceux qui ont boudé les salles, après, ils ont regagné les salles. Moi, je pense que ceux-ci sont à féliciter. Ça, c'est très important. Bon, ça, je peux dire pour le moment.
Alors, on a aussi vu l'audition de la société civile. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de l'implication de la part des médiateurs, de la médiation de la société civile dans ces pourparlers?
Bon, quand on parle médiation, quand on parle pourparlers, il faut tenir compte qu'il faut impliquer tout le monde. Je pense que la société civile est en train de jouer sa partition dans ces pourparlers-là. Et on ne peut pas faire un pourparler sans en laissant la société civile sur place. Le rôle qu'ils sont en train de jouer, effectivement, c'est des rôles qui parlent au nom du peuple, au nom des citoyens lambda. Je pense que c'est très important. Nous devons les féliciter, les encourager, et ce qu'ils sont en train de faire, comme ils ont toujours fait datant, et ils sont en train de faire actuellement. Je pense qu'il faut les saluer, il faut les encourager.
Alors, Moussa Ag Acharatouman, vous êtes le représentant du MNLA à ce débat. Malgré un début laborieux de ces pourparlers à Alger, peut-on tirer, malgré tout, un bilan de cette deuxième phase?
Bon, je pense que déjà le fait que les autorités maliennes et les mouvements politico-militaires de l'Azawad se soient retrouvés à Alger pour parler dans un langage franc, sincère, sur tout ce qui arrive au Mali en général et dans l'Azawad en particulier depuis 3 ans. Je pense que déjà ça c'est un pas salutaire, puisque depuis la signature des accords de Ouagadougou, il ne faut quand même pas oublier que ces discussions ou ces négociations devraient démarrer depuis, mais malheureusement il y a une année on est resté dans l'impasse à cause quelque part du fait que le gouvernement malien ne s'est jamais manifesté pour commencer enfin ces négociations-là. Donc je pense que déjà le fait qu'on se retrouve ici à Alger pour parler des questions du fond, notamment la question politique qui oppose aujourd'hui l'Azawad au Mali, est un pas important et salutaire. Maintenant, quant au résultat de cette première phase, je pense que bon, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de choses durant ces premières semaines de négociations et de discussions, parce que tout simplement c'est la première fois qu'on évoque des questions de fond. Je pense que le gouvernement malien est arrivé avec une proposition sur une forme de décentralisation qu'ils appellent ici régionalisme, et de notre côté nous avons proposé aussi c'est-à-dire un projet du fédéralisme pour l'État malien dans lequel l'entité Azawad sera reconnue à part entière. Et il y a eu des échanges, c'est-à-dire des deux côtés sur les deux projets. Nous, de notre côté, nous pensons que le régionalisme actuellement tel qu'il est proposé par le gouvernement malien n'est pas à la hauteur des aspirations de nos populations et ne répond pas aussi aux préoccupations, aux aspirations de nos populations. Quant au projet de fédéralisme qu'on a déposé, on pense que ça doit être une réponse, ou c'est du moins une réponse aujourd'hui pour la situation qu'on est en train de vivre au Mali. Pour le moment, il y a eu des discussions sur ces deux visions, sur ces deux projets, mais il n'y a pas une convergence encore qui se discute, parce qu'entre le régionalisme que le Mali propose et le fédéralisme qu'on est en train de revendiquer, je pense qu'il y a des choses, il y a du travail encore à faire, mais j'ose espérer que dans les semaines à venir, puisqu'on doit revenir ici en octobre, on pourra davantage avancer par rapport à ces propositions-là, même si on trouve que la décentralisation ou le régionalisme tel qu'il est proposé par le Mali, vraiment est une proposition, on va dire, très faible, c'est-à-dire compte tenu de la crise et de la situation actuelle que nos populations sont en train de vivre.
Alors Moussa, vous êtes du MNLA, vous représentez le MNLA à ce débat. Malgré les débats qu'on sait houleux dans les coulisses, aussi bien sur la table de négociation, il y avait une ambiance assez bon enfant à Alger. Est-ce que cette bonne humeur est toujours présente à Alger et lors des discussions?
Bon, moi je pense qu'au Mali, aujourd'hui, il est temps que les gens comprennent que nous n'avons pas de problème avec les peuples maliens, nous n'avons pas de problème avec des individus, mais nous avons un problème avec un système, un gouvernement et un État. On est là pour évoquer ces problèmes-là pour donner notre point de vue d'ici. Quant à l'ambiance, quant aux salutations entre les uns et les autres, ça a toujours existé. Nous n'avons pas de problème avec les individus, c'est-à-dire qui composent, on peut dire, l'autorité malienne qui est présente ici à Alger, ou ceux qui les soutiennent ou qui les suivent. On s'est toujours bien salués, on a toujours échangé. Et puis justement, cette crise-là, pour la résoudre aujourd'hui, pour trouver une solution à cette crise, il faudra justement qu'il y ait cette bonne ambiance-là, que les gens, les acteurs, c'est-à-dire les ministres maliens, autant que les responsables des mouvements armés, puissent avoir le temps de discuter dans les salles, de discuter hors des salles. C'est en ce moment-là qu'on pourra créer une convergence d'idées qui va nous permettre justement d'avancer vers une solution. Depuis qu'on est ici à Alger jusqu'à l'heure où je vous parle, l'ambiance elle est plutôt bien, parce que les gens continuent à échanger, à discuter dans les salles et hors des salles, mais cela ne fait pas forcément dire qu'on s'entend ou qu'on parle le même langage, mais on est tous là, je pense, avec une volonté assez manifeste du fait qu'on cherche une solution aujourd'hui aux problèmes maliens en général et aux problèmes azawadiens. En particulier, je pense que les uns et les autres ont mis leur vision sur la table et il n'y a absolument rien qui est tabou puisqu'on est là pour négocier. Donc, de ce fait, on doit exposer tous les problèmes, tous les mots, tous les sujets afin que les uns et les autres puissent dégager des solutions qui vont nous permettre d'avancer. Donc, l'ambiance, elle est plutôt bien, mais cette bonne ambiance entre les représentants du gouvernement malien et les représentants des mouvements politico-militaires de l'Azawad ne veut pas forcément dire que tout se passe bien ou qu'il n'y a pas de problème entre ces derniers. Le problème, il est entier, il est politique, il existe. Il est incontestablement posé aujourd'hui sur la table, mais il y a des discussions qui sont en cours, même si les points de vue, comme je le disais tout à l'heure, ne sont pas forcément convergents entre la proposition du Mali et notre proposition. Mais le fait qu'il y a justement cette bonne ambiance-là, je pense que ça va nous permettre, dans les semaines à venir, d'avancer vers ce que nous souhaiterons tous, c'est-à-dire arriver à un accord global qui puisse permettre à l'État malien de bénéficier d'une certaine stabilité et aux Azawadiens de pouvoir bénéficier de certains droits fondamentaux et élémentaires qui vont leur permettre de s'autogérer, de s'auto-administrer et de s'occuper de leur quotidien.
Merci beaucoup Moussa Aga Charatoumane. Vous restez avec nous pour la suite du débat. Alors Moussa Camara, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, tout à fait, je suis.
Alors Moussa, on parle de restitution des conclusions des différents panels. Aujourd'hui, concrètement, de quoi il s'agit?
Alors, donc, les négociations directes entre le gouvernement malien et les groupes armés ont débuté, faut-il les rappeler, le lundi 15. Donc, dans les différentes thématiques, les quatre groupes thématiques. Donc, on a eu à discuter, les groupes armés ont eu à discuter avec directement le gouvernement malien, en présence, bien entendu, de l'équipe de médiation internationale. Donc, des propositions ont été faites. Moussa Gacharatouman l'a dit. Donc, la coordination a présenté, bien entendu, son projet de fédéralisme au gouvernement malien, en présence de la médiation. Donc la plateforme aussi a fait justement alors ses propositions. Donc il s'agit aujourd'hui alors de faire la synthèse de tout ça et de proposer ça à la médiation qui justement alors va prendre acte de tout ça et qui va mettre la pause qui sera observée très bientôt à profit justement pour plancher sur ces travaux-là.
Alors, merci beaucoup Moussa. Vous restez avec nous pour la suite du débat. Nous allons observer juste quelques secondes de pause avant la deuxième partie du débat.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Oui, ou que vous soyez, consultez notre site web ou restez tout simplement connecté à nos 20 radios partenaires du Studio Tamani, repartis un peu partout dans le pays. L'émission d'aujourd'hui porte sur le bilan de la deuxième phase pour parler à Alger. Cette deuxième partie sera consacrée aux divergences entre les délégations. Nos invités, Sungalo Zoromé du parti Yelema, Moussa Ag Acharatouman, responsable de la communication du MNLA. Nous avons également en ligne depuis Alger Alger. Moussa Camara, notre envoyé spécial depuis Alger. Alors, quelle lecture aujourd'hui peut-on faire de ces nombreuses divergences entre les groupes armés depuis Alger? Moussa Ag Acharatoumane, vous représentez le MNLA.
Bon, sur ce plan particulier, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de divergences, comme on a souvent tendance à le dire. Il est vrai que la plateforme existe d'un côté. Je pense que d'un autre côté, la coordination qui est composée du MNLA, du MAA et du HCIA, nous avons entrepris beaucoup de démarches qui datent même d'avant Alger pour essayer de faire en sorte de rassembler l'ensemble de ces qui porte la voix et les aspirations des populations de la zone. Je pense que dans ce cadre-là, nous avons eu à faire des pas assez importants, notamment lors de la dernière réunion qu'on a tenue avec les membres de la plateforme à Ouagadougou. Ensuite, quand nous sommes venus ici aussi à Alger, on a eu à signer un protocole d'entente qui s'inscrit toujours dans la ligne du regroupement, du rassemblement de l'ensemble de ceux qui portent la voix et les aspirations des populations de la zone. Et dans ce document, il était clairement stipulé et dit que les différents mouvements désormais négocieront tous ensemble, seront dans la même commission de négociation et demandent, c'est-à-dire ont la même revendication par rapport au fédéralisme. Mais malheureusement, 48 heures après, il y a certains membres, c'est-à-dire de la plateforme, qui se sont distancés de ce qu'ils avaient pris comme engagement avec nous. Mais ce qui a contribué justement à affaiblir ce groupe-là, puisque une bonne partie d'entre eux et on rejoint la coordination qui est composée du MNLA, du MA et du HCIA, qui enregistre aujourd'hui à son sein les CPA et une partie aussi des gens du MAA. Donc on pourra en conclure en réalité que la coordination, c'est-à-dire s'est beaucoup renforcée depuis Ouagadougou jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a eu plus de mouvements, il y a plus d'adhérents et les projets qu'on a toujours défendus, on continue à les défendre. Et malgré le fait que certains sont réticents à nous rejoindre, puisque le pont qui les lie au pouvoir malien n'est pas vraiment explicite, n'est pas très très clair. Donc du coup, on donne le temps à ces derniers-là, on continue à échanger avec eux pour faire en sorte qu'ils puissent rejoindre cette coordination.
Alors Moussa Ag Acharatoumane, vous restez avec nous. Juste le temps de comprendre avec M. Zoromé, qui est également dans ce studio, représentant le parti ILMA, parti du Premier ministre Moussa Mara. Alors, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, il y a que le MNLA a à quelques moments claqué la porte, car ne voulant pas être sur la même table de négociation que certains partis, certains mouvements favorables aux idées de Bamako. Alors, l'accord de Ouagadougou stipule clairement que le présent accord est ouvert à l'adhésion d'autres groupes armés maliens non signataires qui s'engagent à respecter toutes les dispositions sans condition de cet accord. Alors, de ces deux constats, qu'est-ce qu'il faut en tirer, Soungalo Zoromé, du parti ILMA?
Bon, tirer des constats par rapport à ces deux éléments, bon, je pense que les accords qui ont été signés à Ouagadougou, c'est ni accord qui est de la transition, ça il faut le dire. Et c'est les autorités
de l'époque qui ont
engagé le pays, effectivement, c'est reconnu. Aujourd'hui, je pense que même le gouvernement actuel qui est là est obligé, va le reconnaître cet accord-là. Donc, comme on s'est dit dans un article de l'accord, et l'accord est resté en vigueur jusqu'à une nouvelle ouverture de notre accord. Je pense que c'est ça que j'ai ajouté par rapport à ce point.
Alors, Moussa Camara, à partir du moment où l'accord de Ouagadougou dit clairement que la porte est ouverte à d'autres groupes qui veulent participer au pourparlers, qu'est-ce qu'il faut comprendre des nombreuses difficultés, des conditions que le MNLA et la plateforme ont posées à un certain moment de ces pourparlers?
Pour moi, je dirais tout simplement que les difficultés, bon, s'il faut parler comme ça, qui existent, la boîte de Pandore a été surtout ouverte, à mon sens, par le protocole d'accord datant du 12 septembre, lorsque justement Moussa Acharatoumane en parlait. La coordination a signé ce protocole d'entente pour demander un statut politique institutionnel, alors à travers un système fédéral voilà, à faire reconnaître par l'État malien et la communauté internationale. Donc c'est là que vraiment les différents remous entre les différents mouvements ont commencé à surgir. Parce que là, les autres ont signé, à la grande exception, bien entendu, de la CNFPR, qui a pris tout de suite ses distances. Mais les mouvements arabes de l'Azawad aussi, pro-maliens, donc tout de suite le lendemain, ils ont fait un communiqué pour dire qu'eux aussi, ils prennent leurs distances. Mais il faut reconnaître qu'à ce niveau-là, donc ça a quand même provoqué un petit clash au niveau du mouvement arabe de l'Azawad, disons, pro-loyaliste, comme diraient certains, parce qu'une frange, quand même, a pris ses distances pendant qu'une autre frange, justement, a décidé d'être du côté, alors, de la coordination. C'est à partir, justement, de là-bas qu'il y a eu cette fissure-là, parce qu'il était entendu qu'une fois à Alger, les groupes armés, c'est-à-dire la coordination, n'est-ce pas, représenté par les trois groupes, et la plateforme représentée par trois groupes, allait d'une même voix parler. Mais lorsqu'il s'est agi, donc, pour la coordination de proposer un protocole d'entente, c'est là où les problèmes ont surgi. Donc, la CMFPR a pris ses distances, une partie, alors, du MAA, l'OALIS a pris ses distances, et après aussi, même la CPA, on a constaté quand même qu'une partie aussi de la CPA, donc, avait levé le ton. Ils sont partis jusqu'à demander alors le départ de leur président Assalé. Donc à ce niveau-là aussi aujourd'hui, bon, ça a mis à rude épreuve la cohésion justement de la CPA. Donc moi je pense que voilà globalement d'où est parti, d'où sont partis, j'allais dire, tous ces remous qu'on a pu constater justement dans le déroulement de cette deuxième phase de pourparlers inclusifs intermaliens à Alger.
Alors, Moussa Ag Acharatoumane, vous représentez le MNLA. Est-ce que ces difficultés dont parlait tout à l'heure notre envoyé spécial Moussa Camara, est-ce que ces difficultés ne remettent pas en cause l'accord, une partie de l'accord de Ouagadougou?
Non, je ne pense pas du tout que l'accord de Ouagadougou ait été remis en cause, parce que, comme on le dit, l'accord de Ouagadougou était ouvert à tout mouvement pour y adhérer, ce qui a été le cas du MAA et de la CMFPRD à l'époque. Mais par la suite, ce sont des mouvements qui ont fait du chemin. Il faut quand même rappeler que même la CMFPR, CSND, AND, qui a une partie du CMFPR qu'on appelle le CMFPRD, qui est au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad. Les MAA aussi, par la suite, malheureusement, s'est scindé en deux groupes. Une partie, comme mon homonyme le disait tout à l'heure, est restée loyaliste au pouvoir malien, pendant que l'autre partie a rejoint la coordination des mouvements de l'Azawad. Ces mêmes MAA aussi, après avoir signé les protocoles, celui qui était loyaliste s'est une fois de plus scindé. Donc on se pose la question, qu'est-ce qu'il reste au final de cette désorganisation qui constitue aujourd'hui ce que vous appelez la plateforme. Et quant au CPA, aujourd'hui, ses plus hauts responsables qui sont connus, Ibrahim Mohamed Saleh, Ousmane et d'autres, sont au sein de la coordination, se voient et défendent les mêmes revendications que la coordination. Donc par la suite, on ne peut constater en rien que les renforcements, c'est-à-dire de la coordination qui a récupéré une bonne partie de ces organisations-là. Maintenant, on doit se poser la question de savoir qu'est-ce que la plateforme aujourd'hui à Alger, en tant qu'organisation, en tant que mouvement, représente sur le plan politique. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que le CMFPR de Maître Harouna Touré, qui ne d'ailleurs représente pas grand-chose puisqu'il y a deux ou trois personnes dedans. Ensuite, le MAA aussi, qui a été divisé lors du protocole d'entente qu'ils ont signé ici aussi. Là aussi, on se pose la question, qu'est-ce qui reste de cette organisation-là? Donc moi, je pense que de ce côté-là, les choses sont en train de s'éclaircir, tout comme nous l'avons demandé au gouvernement malien et à la médiation, de faire en sorte que la négociation puisse c'est-à-dire se dérouler entre les mouvements belligérants et le gouvernement malien, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque la plupart des négociations, des discussions du fond se passent aujourd'hui entre le gouvernement malien et la coordination. Et quand on regarde aussi la composition de cette coordination-là, on sera effectivement compte en réalité que ceux qui sont en belligérant, ceux qui existent sur le terrain, ceux qui ont une capacité de nuisance, ceux qui ont une base, ceux qui ont un projet politique, un idéal, se retrouvent au sein de cette coordination-là. Au-delà même des mouvements adhérents à l'accord de Ouagadougou, les mouvements signataires même qui pilotent aujourd'hui tout ce qui se passe dans l'Ouest, sont au sein de cette coordination. Donc bien évidemment, ce qui doit advenir, ce qui doit venir entre le gouvernement malien et l'Ouest doit être signé entre cette coordination-là qui est largement assez représentative de tout ce qui se passe chez nous avec le gouvernement malien. Maintenant, la question qu'elle se pose, qu'est-ce que cette plateforme-là va devenir? Et puis nous, on a été très clair, je pense que même là, une bonne partie des membres de la médiation a demandé à ces deux derniers groupes s'ils sont du côté du gouvernement malien, il faudra qu'ils le disent clairement, qu'ils les stipulent. S'ils sont aussi du côté des mouvements dits du nord du Mali, que nous on appelle les mouvements de la zone, il faudra aussi qu'ils explicitent. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on est en belligérance avec Bamako, en même temps être celui qui fait la promotion, qui soutient, qui fait véhiculer les idéaux ou les positions du gouvernement malien. C'est qu'il y a le cas de Maître Harouna Touré et d'IMAA et d'appeler loyalistes de Bamako. Alors, et Moussa, nous, c'est ça qui nous a toujours opposé à ces derniers-là. On les a toujours demandé d'expliciter, de clarifier leur position par rapport au pouvoir. Voilà.
Je pense que ceci est en cours avec eux sur place là-bas à Alger. Alors, Sungalo Zoromé du parti Yelema, certains observateurs estiment que ces différentes difficultés, ces dissensions au niveau des groupes armés est une stratégie pour obtenir toujours un peu plus du gouvernement malien et de la médiation. Est-ce que vous partagez cet avis?
Bon, effectivement, c'est comme certains disent, ça peut être une stratégie, mais ça peut être également un point d'incompréhension par rapport à leur motivation, à les intérêts qu'ils portent sur leur projet. Ça peut être ça, comme ça peut être une stratégie. Voilà.
Alors, Moussa Camara, vous êtes notre envoyé spécial sur place à Alger. Est-ce que du constat que vous de votre constat là-bas à Alger, ces dissensions, ces dissidences au niveau des groupes armés est une stratégie? Est-ce que on peut définir ça comme ça, vous qui êtes sur place là-bas?
Bon, disons que on peut quand même prendre cela comme faisant partie, bien sûr, des négociations. Dans une interview que le ministre malien de la réconciliation, Zahabi Ould Sidi Mohamed, m'a accordée, j'ai eu à poser justement la même question de savoir si ces remous-là sont de nature alors à entamer un peu le cours des négociations. Sa réponse était que bon, ça entre dans le cadre justement des négociations. Il n'est pas évident parce qu'au sein des groupes armés aussi, c'est vrai, il y a certaines divergences qui demeurent. Donc au niveau des différents ensembles aussi, grands ensembles des mouvements aussi, il y a donc des différences de points de vue. Mais ce qu'il faut peut-être retenir aujourd'hui, c'est que bon, ce sont des négociations, les positions peuvent alors changer à tout moment. Donc certains peuvent alors essayer d'aller vers une certaine flexibilité, pendant que certains préfèrent rester sur une ligne plutôt dur. Moi, je pense que c'est aujourd'hui ce à quoi aujourd'hui on est en train d'assister. Mais déjà d'un constat général, cela n'entame à rien, disons, au fond, alors des négociations.
Alors, une courte pause juste avant d'entamer la troisième et dernière partie de ce débat.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Alors, retour dans ce studio pour parler du bilan de la deuxième phase des pourparlers d'Alger. Vous nous suivez à travers notre réseau de radio partenaires et aussi grâce à notre site web www.studiotamani.org et également à travers notre page Facebook Studio Tamani. Alors, la troisième partie, je dirais, de cette émission est consacrée à la possibilité d'un accord à Alger. Nos invités, Sungalo Zoromé du parti Yelema, parti du Premier ministre Moussa Mara, Moussa Ag Acharatouman, responsable de la communication du MNLA, qui intervient depuis Alger. Également à Alger, Moussa Camara, notre envoyé spécial. Alors, cette troisième partie est, je l'ai dit, consacrée à la possibilité d'un accord à l'issue des pourparlers d'Alger. Alors, les pourparlers d'Alger qui connaissent une interruption cette semaine pour pour restituer un peu ce qui a été fait durant ces trois semaines à Alger. Alors, Moussa Agg Acharatouman, vous êtes le représentant du MNLA. Vous intervenez depuis Alger. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il faut remettre en cause l'inclusivité demandée par la médiation dans les pourparlers en voyant toutes ces perturbations?
L'inclusivité, c'est-à-dire, je n'ai pas bien compris.
Est-ce qu'à partir du moment où certains groupes comme le MNLA demandent à ne pas être mis au même niveau que certains mouvements, est-ce que cela ne remet pas en cause l'inclusivité demandée aujourd'hui par la médiation?
Non, je ne pense pas du tout. Au contraire, même mettre des mouvements ou des individus qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas les mêmes revendications, qui n'ont pas les mêmes aspirations dans une salle, c'est ce qui est justement contradictoire au processus. Nous, on pense qu'aujourd'hui, on est là à Alger pour discuter avec le gouvernement malien sur une question politique sur laquelle on a des divergences, on a des problèmes avec les Mali. Ceux qui n'ont pas de problèmes avec les Mali, ceux qui n'ont pas de revendications spécifiques par rapport à cette question politique-là, ne peuvent pas être dans la même salle que nous. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a eu à clarifier aujourd'hui. C'est une préoccupation qui est prise en compte et elle est réglée à notre niveau. Et cela ne veut pas aussi dire qu'on exclut ni les uns ni les autres, pas du tout. Nous, l'inclusivité, on l'a tout le temps accepté. Le fait qu'on a fait venir la société civile ici et qu'on lui a donné une semaine de discussion pour qu'elle puisse s'exprimer par rapport au devenir politique de l'État malien, je pense que c'est une manière aussi de faire un pas dans le cadre de l'inclusivité. Donc on n'a jamais exclu qui que ce soit et ça n'a jamais été notre objectif. On pense que dans cette crise-là, il y a des camps, il y a des partis qui doivent discuter. Il y a le gouvernement malien et il y a ceux qui sont en belligérance ou qui ont des problèmes ou qui ont des revendications face à l'État malien. Ce sont ces deux blocs-là. Et tout groupe, toute organisation, tout individu qui ne se retrouve pas dans l'une de ces deux entités n'a pas de raison d'être à Alger. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est compréhensible et qui est compris par les uns et les autres.
Alors, Moussa Camara, vous êtes notre envoyé spécial à Alger. Est-ce que déjà on peut sentir que les différentes parties et également la médiation pensent à l'après-crise?
L'après-crise, bon, ce serait peut-être aller très vite en besogne, mais ce qui est sûr, je vous le disais, la médiation d'ores et déjà a apprécié l'atmosphère dans laquelle les travaux se déroulent. Et la médiation a encore apprécié aussi donc, les forces de proposition des différentes parties. Donc déjà, la médiation, pour l'instant, on ne peut pas parler d'après-crise, parce que comme quelqu'un le disait, le problème demeure entier, les uns et les autres ont fait des propositions, mais pour autant, les points de vue sont alors bien divergents. Donc il faut encore donner du temps au temps, comme dirait l'autre. Il faut attendre encore justement cette pause qui sera observée et qui sera mise justement à profit par la médiation pour plancher sur les différentes propositions et essayer alors de concilier les propos, aller vers peut-être un accord. Mais ce qui est sûr, ce que je peux dire, c'est que le sentiment en tout cas partagé ici dans le couloir de l'hôtel El Ouraci à Alger et dans les salles, c'est que chacun nourrit ses secret espoir alors d'aboutir cette fois-ci à une paix véritable, durable et définitive. En tout cas pour l'instant, compte tenu de l'atmosphère qui prévaut, compte tenu alors de la volonté affichée par les uns et les autres, compte tenu de la force de proposition et compte tenu aussi de l'optimisme affiché par l'équipe de médiation, moi j'ose aussi croire que cette fois-ci, on n'est pas trop loin du bout du tunnel.
Alors, Sungalo Zourome, vous représentez le parti ELEMA, parti du Premier ministre Moussa Camara. Est-ce que vous pensez la même chose que Moussa Camara, notre envoyé spécial à Alger?
Effectivement, le souhait qui nous apporte une solution définitive. Je pense qu'ils sont à Alger pour se comprendre, pour amener des belles propositions, des bonnes propositions, et qui pourra faire sortir définitivement le Mali de ce gouffre. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut espérer, et ce que Camara vient de dire tout de suite, vraiment, on peut espérer. Et nous souhaitons vraiment qu'ils s'attendent et qu'ils nous amènent de bonnes propositions et qu'ils pourra faire sortir le Mali de l'ornière.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'unité nationale à l'issue de ces pourparlers d'Alger?
L'unité nationale n'a pas de prix, il faut le dire, n'a pas de prix. Et c'est dans l'union qu'on peut faire beaucoup de choses. Imaginez, quand on fait un bilan des dernières années écoulées, de 2012 à nos jours, c'est vrai, nous sommes plongés dans une crise. Et je dis bien, si chacun d'entre nous, si on s'auto-évalue, on évalue l'État, on verra que rien n'a bougé. Je peux dire beaucoup de choses n'ont pas avancé. Ça se montre que les crises, vraiment, sont des handicaps qui affectent la société, qui affectent vraiment le développement. Je pense que c'est dans l'union qu'on peut planifier, c'est dans l'union qu'on peut aller de loin.
Alors, cette unité nationale, comment ressortira-t-elle à l'issue de ces pour parler selon vous?
Bon,
affaibli, renforcé?
Je pense que nous allons sortir renforcé. J'espère. Je crois beaucoup qu'on va sortir grand de cette situation.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez comme plaidoyer à ces deux parties pour que l'unité nationale justement recherchée puisse ressortir renforcée de ces négociations à Alger? Bon, on parle de concession des deux côtés.
Qui regarde les peuples. Qui regarde les peuples et les peuples aussi les regardent. Je pense que c'est ça qui est très important. Quand on regarde les peuples, on voit que dans la diversité, qu'on peut faire de grandes choses. Que le Mali est un pays un et indivisible. Le Mali est un peuple uni depuis dans les temps immémoriaux. Et si je pense que si on se retourne dans l'histoire, on verra que nous sommes un peuple. Et je pense que si on regarde ça, on verra qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on parle de la division, qu'on parle du fédéralisme. Je pense que c'est dans l'union, que dans l'unité qu'on verra qu'on peut aller.
Alors, Moussa Ag Acharatoumane, vous êtes le responsable de la communication du MNLA. Alors, à entendre certains membres du MNLA et de CPA, on a comme l'intime conviction que le mot Azawad aujourd'hui désigne comme le Beledougou ou bien toute autre chose, comme les sept villages de Koulikoro. Est-ce que vous partagez cet avis Azawad dans un Mali uni et plus fort?
Bon, tout dépendra de la place politique et administrative qu'on accordera à cette appellation-là. C'est une appellation aussi qui a fait sujet de beaucoup de polémiques et de discussions souvent très houleuses, même avec vos ministres ici présents à Alger, parce que d'autres nous disent que le nom de l'Azawad est le nom d'un tiroir. Nous ne les contestons pas, nous les remettons pas en cause, mais il faudra aussi reconnaître que l'appellation Bimali n'est pas aussi quelque chose de consensuel qui vient de partout. Donc nous pensons que la population de l'Azawad, c'est un droit élémentaire et fondamental pour eux d'appeler à leur région, leur tiroir ou leur territoire par les noms qu'ils veulent. Et on a même rappelé ici à Alger, à vos différents ministres, que le nom de la France est une petite partie de la France qu'on a décidé de prendre et de donner à tout le territoire français. Et d'autres exemples sont montés et cités de par le monde. Donc on pense que l'appellation Azawad aujourd'hui ne doit pas être un blocage dans le cadre de la résolution de cette crise. Moi, je pense que reconnaître cette appellation, donner l'opportunité à ces populations de désigner leur tiroir ou leur territoire par le nom Azawad ne peut que renforcer justement cette unité et cette union qu'on recherche tant qu'il est temps à demander. Et si l'appellation Azawad n'est pas la reconnaître aujourd'hui, remet en cause même l'unité, l'intégrité et la souveraineté du Mali, je pense que les autorités maliennes et le peuple malien doivent réfléchir à deux fois avant de répondre à cette question-là. Je pense que
alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire clairement que le MNLA reconnaît l'intégrité territoriale du Mali, la laïcité et le caractère laïque du Mali aujourd'hui réclamé par les autorités de Bamako?
Bon, vous savez, c'est une cassette qu'on a tellement réjouée que nous, on a même plus envie de la remettre
oui,
en cause.
Oui, mais on aimerait juste avoir cette précision avec vous. Est-ce que le MNLA reconnaît cela?
Bon, vous savez, nous, on a reconnu l'intégrité territoriale, la souveraineté de l'État malien, les caractères républicains et laïcs de l'État malien depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis les accords de Ouagadougou. On a réaffirmé ça dans la feuille de route qu'on a signée aujourd'hui, la dernière fois ici à Alger. Je pense que c'est une question qui ne doit plus être reposée aux gens. Nous, c'est dans le cadre de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'État malien qu'on est en train de négocier aujourd'hui cette option fédéraliste dont on pense aujourd'hui qu'elle peut être à la hauteur de la résolution de la crise qu'on est en train de vivre. Défendre l'appellation Azawad aussi, on la défend dans l'entité et dans l'ensemble malien. Aujourd'hui, qu'une partie du Mali s'appelle Azawad, moi je ne vois pas en quoi cela fait du mal à qui que ce soit, si cela peut contribuer justement à renforcer cette unité, cette cohésion, cette souveraineté, cette intégrité. Aujourd'hui, on doit pouvoir la reconnaître, parce que ce qui est dangereux, c'est que les gens deviennent des extrémistes, et à force de rejeter des aspirations et des revendications fondamentales et élémentaires des populations, on les pousse à être des extrémistes, et souvent même à renoncer à des engagements qu'ils ont déjà eu à donner au Mali et à la communauté internationale. Et nous, on ne voudrait pas justement qu'on en arrive là, raison pour laquelle il y a des choses sur lesquelles il faut que le gouvernement malien soit flexible par rapport à l'appellation Azawad, par rapport à cette revendication fédéraliste aujourd'hui. Je pense que les autorités maliennes doivent être en mesure, doivent avoir le courage aujourd'hui de sortir, c'est-à-dire de leur case, pour justement essayer de faire des propositions qui puissent répondre aux aspirations, aux demandes de ces populations-là. Aujourd'hui, l'appellation Azawad, c'est l'une des choses sur lesquelles nous, on insiste, et on pense que c'est les crises même dont doit sortir tout l'avenir de cet État aujourd'hui. L'appellation Azawad, les reconnaître, c'est aujourd'hui contribuer à l'unité, à la souveraineté, à l'intégrité et au renforcement du Mali aujourd'hui. La rejeter, la remettre en cause, aujourd'hui, c'est quelque part fragiliser même cette paix qu'on veut construire et consolider aujourd'hui. C'est ça notre avis.
Alors, Moussa Camara, je pense que j'ai réveillé un certain souvenir en vous parlant, en parlant à Moussa Acharatouman de cette petite parenthèse qui dit que voilà, certains membres de CPA et du MNLA disaient Azawad, oui, mais dans un Mali uni et prospère. Est-ce que ces ambiances-là existent toujours sur place là-bas?
Oui, bon, ce que j'ai compris, on est en fait dans une logique de négociation, donc la position de la coordination qui consiste à réclamer à corps et à cri alors un État fédéral, donc où on trouvera alors un État de l'Azawad. Donc ça entre dans le cadre des négociations, mais peut-être quand on essaie de pousser un tout petit peu la réflexion, et si l'on se réfère un peu alors aux discussions informelles que j'ai eues ici et là, c'est qu'en en fait, il n'y a pas cette volonté de leur part de mettre en cause l'unité alors nationale du Mali ou l'intégrité. Il a dit que cela a été déjà consacré par les engagements antérieurs, dont la feuille de route d'ailleurs. On peut citer aussi les accords de Ouagadougou. Donc il y a cette volonté justement d'aller vers cette unité. Mais peut-être je vois qu'à travers justement cette demande de fédéralisme transparaît encore une aspiration alors à un mieux-être, une aspiration à l'amélioration des conditions de vie, bien entendu, d'une zone donnée du Mali. Voilà, donc qui, comme à l'instar de bien d'autres zones du Mali, bien entendu, connaît des difficultés, connaît alors des adversités, peut-être donc des difficultés auxquelles justement il faut apporter des régions. Donc moi je pense que nous sommes dans des négociations, les deux sont jetés, les uns et les autres ont fait des propositions, mais je pense que l'unité du Mali alors s'en sortira préservée.
Alors, et Sungalo, merci beaucoup Moussa. Sungalo Zoromé du Parti Yélema, est-ce que vous êtes rassuré après ce que vient de dire Moussa Aga Charatouman du MNLA?
Bon, ce qu'il a dit par rapport à l'intégrité du territoire, je pense que ça, cela est déjà balisé, il n'y a pas de problème là-bas. Le problème, c'est le niveau de l'Azawad, l'appellation Azawad. Et ce qui est plus important, après l'appellation Azawad, qu'est-ce qui est caché derrière l'appellation Azawad? C'est ça qui est plus important, à mon avis. Donc, si vous voyez que l'autorité malienne aujourd'hui vraiment insiste sur ce point, je pense qu'il y a quoi vraiment à comprendre sur ce point et vraiment à soulever davantage, je pense, c'est mieux.
Voilà. Alors, pour plus de clarté dans ce débat, je rappelle que nous avons également envoyé une invitation aux membres de l'opposition et nous n'avons pas eu de suite favorable à cette invitation. Et la société civile également devait être représentée dans ce débat, mais malheureusement, nous n'avons pas vu le représentant de la société civile qui a été empêché. Alors, ce débat s'achève. trêve. Un dernier mot, peut-être, Moussa Aga Charatoumane. 30 secondes.
Bon, je souhaite que de par ces négociations et ces discussions à Alger puisse surgir quelque chose qui va permettre aux Maliens d'aller ensemble, de pouvoir cohabiter et d'enfin revenir à cette paix qui est en recherche par les uns et les autres. Et j'espère aussi que dans cette paix, dans cette lumière qui va ressurgir, les Ivoiriens pourront bénéficier de l'ensemble de leurs droits les plus fondamentaux qui vont leur permettre de s'autogérer et de s'occuper de l'avenir, des générations à venir.
Merci beaucoup Moussa Aga Acharatoumane du MNLA. C'est la fin de ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Le débat portait sur le bilan de la deuxième phase des pourparlers d'Alger. La première phase des pourparlers, la deuxième phase, je dirais, des négociations d'Alger qui tire vers sa fin. Ceci est prévu pour la fin de la semaine. Après la concertation, place maintenant aux restitutions. Les représentants de la médiation internationale et les représentants du gouvernement malien reçoivent depuis ce week-end les conclusions des deux délégations du Nord. Alors, nous avons eu comme invité Sungalo Zoromé du parti ILMA, Moussa Aga Acharatoumane, responsable de la communication du MNLA, et Moussa Camara, notre envoyé spécial depuis Alger. Je suis Famoussa Sidibé. Petit Ndiara était à la mise en onde. Ousmane Diadié Touré a réalisé cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Maundi.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.